Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, pour cet éphéméride d'un jour dans l'histoire, Jean-Pierre Diques, écrivain, historien, président de la Société académique du Boulonnais, a choisi d'évoquer Christophe Colomb. Non pas avec la date de 1492, mais avec celle de la mort de Colomb, le 20 mai 1506. Ce jour-là, en effet, Christophe Colomb s'éteint à Valladolid. Pourquoi cette date vous paraît-elle importante et pourquoi avoir choisi de parler plutôt de sa mort que de sa découverte du Nouveau Monde, Jean-Pierre Diques?
Oui, tout simplement parce que la mort est souvent l'image de la vie d'une personne. Et l'histoire de Christophe Colomb nous paraît absolument fascinante par bien des aspects, mais je dois dire qu'elle termine sa vie, Christophe Colomb, aussi mal qu'il a pu la commencer.
Bon, ça a commencé mal alors.
Oui, eh bien oui, parce que 1492 est une date très importante pour l'histoire de l'Espagne, car c'est la fin de la Reconquista et c'est la prise de Grenade. Et des choses extraordinairement importantes, puisque ça met fin à pratiquement 600 années de présence musulmane sur la péninsule. Et à l'époque, les projets de Christophe Colomb n'intéressent strictement personne. On a autre chose à penser.
On sait que la reine Isabelle de Castille ne lui fait pas un accueil.
Il va commencer à aller frapper à toutes les portes. Il va aller au Portugal. Il va envoyer son frère en Angleterre. Il va même essayer de persuader le roi de France. Personne ne s'intéresse à son affaire. Pourtant, c'est une affaire qui semble importante puisque c'est la découverte du Nouveau Monde. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la démarche initiale de Christophe Colomb part d'une erreur, c'est-à-dire que Christophe Colomb pense qu'il va pouvoir rejoindre la route des épices en Cathay, qui est la Chine en réalité, par cette direction qu'il veut le prendre vers l'ouest. Et jusqu'à la fin de sa vie, y compris au moment de sa mort, il restera persuadé qu'il avait découvert la Chine, alors qu'il avait découvert un autre continent qui est un nouveau monde. La date mérite quand même d'être saluée, car c'est la date qui signale la fin du Moyen-Âge. Mais quand même, la mort de Christophe Colomb, tout seul, est assez exemplaire de toutes les difficultés qu'il a pu éprouver dans sa vie. J'entends par là qu'il va mourir seul, accompagné du père de Marchena, qui était un franciscain qui l'avait aidé dans sa vie. Et il a, au-dessus de son lit, fixé une paire de chaînes, et aussi deux de ses enfants, Diego et Bartolomé, donc ces deux enfants qui vont l'accompagner dans la mort. Et c'est tout, il n'y a plus personne.
Et pourquoi les chaînes ?
Eh bien, nous allons y venir. Eh bien, quand Christophe Colomb, après son premier voyage, il est évident qu'il remporte auprès de la cour espagnole un succès absolument considérable. Mais il a laissé des compagnons qui se sont installés à Isabela, c'est l'actuel Haïti. On ne sait pas où est Isabela exactement, mais c'est Haïti. Il avait débarqué dans une petite île qui n'a toujours pas été identifiée, qu'on appelle San Salvador. Et quand il revient là-bas, il s'aperçoit que le fort qu'il a construit a été détruit et tous les soldats qui étaient restés ont été éliminés. Donc vous voyez, constat d'échec. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ses compagnons s'en sont pris à la population et que la population indigène s'est révoltée parce qu'elle se sentait menacée en réalité. Donc tout le monde a été éliminé. Mais conjointement, il ne faut pas oublier que les échanges se sont développés très très rapidement entre l'Espagne et le Nouveau Monde. Et des bateaux faisaient sans arrêter l'aller-retour et des gens s'installaient. Et lui, pendant ce temps-là, il continuait d'explorer. Alors il va découvrir la plupart des grandes îles comme la Jamaïque, la Martinique, Cuba, bien sûr. À son troisième voyage, il découvrira même le Venezuela, donc il descendra pratiquement jusque dans l'Amérique, en Amérique du Sud. Alors ces chaînes, eh bien pourquoi ? Tout simplement parce qu'il avait confié, lors de son deuxième voyage, l'organisation de la colonisation à son frère Bartholomé, qui n'avait pas la prestance ni les connaissances administratives pour s'occuper de ça. Moyennant quoi, toute une partie des colons s'était révoltée contre lui. Quand Christophe Colomb revient, il tombe sur une véritable révolution d'une partie des colons qui se sont installés contre lui-même. Alors là, il a une idée qui est extrêmement fâcheuse. Il a l'idée de faire valoir sa conquête en ramenant des esclaves. Et il va donc ramener 500 esclaves par les bateaux entre son deuxième et son troisième voyage. Et ça, ça a été une erreur absolument fondamentale. Vous savez, Jacques Herse l'a expliqué souvent, que l'esclavage à cette époque-là était encore une coutume qui est extrêmement oui. répandue dans le monde de la Renaissance, notamment en Italie, dont il est le spécialiste en quelque sorte. Et notamment à Gênes, et c'est pour ça qu'il s'était intéressé à Christophe Colomb et qu'il a écrit un livre là-dessus. Passons. Donc, il ramène ces esclaves dans des conditions extrêmement mauvaises. Et conjointement, ceux qui ont fait l'aller-retour se retournent contre lui et viennent à la cour se plaindre de sa façon de gouverner. Donc, à la fin du deuxième voyage, la reine Isabelle la Catholique et le roi Ferdinand d'Aragon, qui sont les souverains, envoient un nouveau gouverneur à sa place, et ce qui s'appelle Ovando, et un dénommé Bobadilla pour prendre la direction militaire.
Mais comment ont-ils vu arriver ces 500 esclaves ?
Ils les ont vus arriver comme ça, en bateau, et ça a été très très mal vu par la reine, parce que autant on acceptait la traite des esclaves noirs, autant ces indigènes, ces indiens étaient considérés non pas comme des esclaves, mais comme des sujets. Et Isabelle, la catholique, va se mettre dans une fureur épouvantable en disant « Mais qui se permet de mettre en esclavage mes sujets ?» Donc, il va être arrêté et il va faire le trajet retour, enferré, dans une cale.
Ah oui, c'est lui qui va
C'est lui qui va se retrouver dans une cale, en quelque sorte.
Oui. Bon.
Et il se trouve littéralement dévalué vis-à-vis de la cour. Il se trouve, ses fils sont ridiculisés. Il a deux fils qui se trouvent ridiculisés dans cette affaire. Ce sont deux pages dont on se moque. Et lui, évidemment, quand il arrive, va supplier sa grâce auprès de la reine Isabelle la Catholique, qui lui pardonne, mais qui lui pardonnera jamais la mort de toute une partie de ses esclaves. Parce que c'est bien d'importer des Indiens en Espagne, mais ils attrapent évidemment toutes sortes de maladies, y compris les premiers qui d'ailleurs avaient été, du premier voyage, qui avaient été adulés et qui avaient été mis dans des conditions de prospérité extraordinaire et qui étaient morts tout de suite. Bon. C'est un grand problème, celui de la conquête du Nouveau Monde, c'est le passage des maladies infectieuses qui vont ravager ce Nouveau Monde et inversement, les Indiens vont nous envoyer le tabac qui va ravager l'Ancien Monde en quelque sorte.
Et ça continue.
Et ça continue.
Donc, comment il a donc ces chaînes, qui sont donc ces chaînes à lui, avec lesquelles il a été emprisonné.
Alors, c'est avec ces chaînes qu'il a été emprisonné et il va les garder toute sa vie.
Pour ne pas oublier
cet intermède extrêmement, extrêmement dramatique qu'a été sa vie. À partir de ce moment-là, Colomb, qui déjà n'était pas très en cours et déjà était oublié, a eu beaucoup de difficultés à rassembler une escadre supplémentaire pour pouvoir repartir, en quelque sorte, pour faire son troisième voyage. Et ce troisième voyage va se très très mal terminer parce que la Santa Maria, qui est son navire amiral en quelque sorte, va s'échouer et très rapidement va être rongée par les vers, si bien qu'il va se retrouver pratiquement pendant un an prisonnier d'une île en attendant qu'on vienne le chercher de telle manière qu'on puisse le délivrer de cette situation dans laquelle il était. Et quant au quatrième voyage, eh bien, il se passera tout aussi mal parce qu'il va tomber dans une tempête épouvantable et rentrera dans des circonstances extrêmement difficiles au Portugal, où au Portugal, d'ailleurs, il sera aussi arrêté. Parce que on n'attend plus après lui. Le roi du Portugal n'avait pas cru à son entreprise. Et évidemment, il s'en mord les doigts parce que le Portugal avait des prétentions sur toutes les mers du globe. Et le roi du Portugal, Alphonse, n'a pas été très heureux de cette erreur qu'il avait faite. Et là aussi, il sera de nouveau arrêté. Donc vous voyez, une vie extrêmement tumultueuse.
Pleine d'épreuves,
oui. Pleine de difficultés. Auxquelles s'ajoute aussi la partie qui est propre à l'existence de tout homme, à savoir en réalité la maladie. Parce que très tôt, il va présenter des crises d'arthritisme, on appellerait ça maintenant du rhumatisme ou de l'arthrose, et il est cloué en réalité au lit la plupart du temps, y compris dans les bateaux, ce qui pose de multiples difficultés, et évidemment pour lui-même et pour tous ceux qui l'entourent. Ah voilà, si bien que cette odyssée qui est en réalité quelque chose de tout à fait phare de l'humanité a été complètement oubliée, si je puis dire, de son temps et on ne s'est plus du tout occupé de cette partie de l'Amérique, mais pendant des siècles. Et il a presque fallu voir renaître l'imagerie sulpicienne, ceci dit sans esprit de critique, du XIXe siècle pour non seulement en faire un héros d'une stature tout à fait extraordinaire, mais même en vouloir en faire un saint, en quelque sorte, parce qu'il avait apporté la croix de cette manière. Alors je n'aime pas beaucoup, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps pour en parler, que l'on critique les époques au nom de notre époque. C'est trop facile. Je veux dire par là que on s'amuse à faire des repentances de ceci, des repentances de cela. On dit il n'aurait pas pu faire ceci, on n'aurait pas dû faire cela, et pourquoi il a fait ceci, etc. Il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que tôt ou tard, on aurait découvert le Nouveau Monde. Que donc toutes ces maladies qui ont été importées, comme la rougeole par exemple, aux Indiens, tôt ou tard, seraient arrivées dans ce pays-là. Si ce n'était pas par Christophe Colomb, ça serait très certainement arrivé par d'autres personnes. Par ailleurs, nous nous trouvions face à des populations qui étaient extrêmement primitives, tout du moins celles des Antilles, étaient des gens très très pauvres. Il y a un côté positif aussi, c'est que, il faut leur appeler les choses par leur nom, ces populations étaient anthropophages, notamment à la Martinique. Alors il y avait le bon sauvage, le Taïnos, décrit par Jean-Jacques Rousseau, cette espèce de personnage idéal du bon sauvage. Et en face de cela, il y a les Caraïbes, qui sont les Caraïbes, qui eux sont des personnages agressifs et qui se servent de réservoir de vivres chez les autres populations. Donc, si vous voulez, ne jugeons pas cette période-là en fonction de nos critères. Une très grande découverte, certes, a été faite à ce moment-là. Christophe Colomb a eu le mérite d'ouvrir une voie, on l'appelait l'Adélante. C'est celui qui avance. On a amené après ça beaucoup d'animaux, des chevaux, des choses comme ça, qui est des poules, des bœufs, des chèvres, tout ça, ça n'existait pas. Et ça a permis aussi la plantation d'un certain nombre d'espèces qui finalement, évidemment, ont servi tôt ou tard aux Indiens. Ceci dit, il est évident que le choc des civilisations a été terrible et que la moitié de Haïti a été décimée par la maladie.
Au fond, Jean-Pierre Diquet, c'est comme toujours en histoire, rien n'est tout blanc ni tout noir.
Tout à fait.
Et toujours entre les deux.
Voilà. En ce qui me concerne, moi je ne participe pas de la légende noire, mais la légende dorée a ses opacités et ses ombres.
Merci Jean-Pierre Diquet. On se retrouvera certainement dans d'autres émissions, éphémérides ou portraits, pour évoquer tous les personnages que vous connaissez si bien. Merci beaucoup.
Merci.